Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avez-vous passé un beau week-end à l'écoute des programmes d'RTL? Heureuse ainsi que toute l'équipe de cette émission de vous retrouver en ce lundi et à l'aube d'une semaine qui va s'achever avec deux rendez-vous exceptionnels dont on est fait pour s'entendre. Je vous explique la situation. Il y a trois semaines, nous sommes allés à la rencontre de Rebecca qui a 23 ans et de son frère Benjamin qui en a 25 pour une entrevue bien loin du confort habituel de nos studios puisque c'est dans une chambre d'hôpital qu'ils nous ont reçus à quelques heures de l'opération qui les liera pour toujours. C'est la greffe du rein de Rebecca à Benjamin. Cette plongée dans les services du don d'organes, émouvante, inoubliable, sera diffusée jeudi dès 15h sur RTL. Et puis vendredi, dans ce studio, trois semaines après l'opération, Rebecca et Benjamin seront avec nous en compagnie du chirurgien qui a procédé à la greffe, qui a tenu en ses mains ce rein si précieux qui a tout changé. Voilà, c'est une belle histoire de cœur que nous partagerons donc tous ensemble jeudi et vendredi dans En effet pour s'entendre sur RTL. Et si vous souhaitez participer à nos échanges, vous pouvez dès maintenant composer le 3210 ou nous laisser des messages sur les réseaux sociaux RTL.fr, Facebook ou encore Twitter. Voilà, on a fait preuve d'audace. On sait que vous nous suivez dans chacune de nos nouvelles entreprises et j'espère que cette histoire vous touchera car nous, elle nous a véritablement bouleversés. Mais pour l'heure, en ce lundi, pas facile d'avancer sereinement dans la vie et de garder confiance quand les échecs et les déceptions jalonnent parfois notre parcours. Et si nous regardions nos revers sous un autre angle, c'est parfois l'échec qui est le meilleur gage de succès. Et souvent, un retard s'avère plus utile qu'un progrès, a écrit Henri Miller. Et ce n'est pas notre invité, justement, qui va le démentir. Peggy Boucher, bonjour, bienvenue sur RTL.
Bonjour, Flavie.
Merci d'être avec nous, Peggy. Déjà, dans le bonjour, il y a quelque chose de volontaire et quelque chose de positif. Quand je disais tout à l'heure que la volonté était contagieuse, vous avez tout de suite percuté en me disant « ouais, c'est bien ça ».
Oui, parce que j'ai l'habitude de dire que l'optimisme est communicatif et le pessimisme contagieux. Et c'est quelque chose que j'adore transmettre et quand je peux le partager, en tout cas, c'est quelque chose de fort.
C'est la raison pour laquelle, Peggy, vous nous invitez à découvrir votre ouvrage « Osez toujours, céder parfois, renoncez jamais » aux éditions Chêne. Alors, pour ceux qui connaissent votre nom, qui connaissent votre visage, on va juste rafraîchir un tout petit peu la mémoire parce que vous êtes aujourd'hui conférencière, vous faites énormément de choses, vous êtes inscrite dans un combat écologique, mais vous êtes aussi la première femme à avoir osé traverser l'Atlantique à la rame en solitaire et sans assistance. Est-ce que, justement, quand vous êtes en 98, en 99, quand vous êtes partie dans cette aventure, vous aviez déjà cette maxime en tête, oser toujours, céder parfois, renoncer jamais.
Cette maxime, je l'ai eue lors de ma deuxième traversée, parce que la première, j'ai chaviré la veille de l'arrivée.
Après, oui, à 130 km.
Oui, 130 km après 79 jours de mer et 5500 km. Donc ça a été la rage au ventre, que j'ai voulu repartir. Et je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un de jusqu'au boutiste. Et pour moi, c'était important de finir ce que j'avais entrepris.
Donc, vous l'avez fait 18 mois plus tard.
18 mois plus tard, j'ai mis quand même 6 mois avant de digérer, parce que je pense que c'est important de le faire, et de repartir et de se dire, il faut y aller.
Alors, digérer quoi? Digérer cet échec?
Digérer cet échec, c'était une sorte de victoire inachevée, parce que pour moi, dans l'absolu, j'avais traversé l'Atlantique à la rame. Ça s'arrête pas, enfin, c'est pas une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Mais ces 130 km, c'était les plus durs, mais aussi les meilleurs. Et je voulais vraiment aller au bout pour pas me contenter de dire, j'ai failli réussir, mais je l'ai fait. Donc je pense que c'est important, parce que dans tout ce qu'on... les projets qu'on peut avoir dans la vie, se dire qu'on a terminé quelque chose et avant de passer à une seconde, je pense que...
Ça vous vient d'où, ça? Cette volonté, justement? Ce jusqu'au boutisme? C'est important parce que vous le précisez dans votre ouvrage. L'éducation, c'est quelque chose d'important. Alors, on peut s'éduquer à tout âge. Et d'ailleurs, on peut s'ouvrir grâce à un livre ou grâce à une émission de radio. Et puis, tout à coup, découvrir en soi une sorte de volonté insoupçonnée. Mais vous, ça vous vient de l'enfance? Quel genre de petite fille étiez-vous, Peggy?
J'étais plutôt un garçon manqué. Fille réussie.
Une fille réussie.
J'ai eu de la chance d'avoir eu des parents merveilleux qui nous ont toujours encouragés, ma sœur Stéphanie et moi. Mais en fait, ça a été nos colonnes vertébrales et ils n'avaient pas toujours le temps de s'occuper de nous, mais ils jouaient plutôt la carte de la qualité. Et c'est vrai qu'ils nous ont toujours appris à avoir de l'audace, à jamais considérer l'échec comme quelque chose d'interdit ou quelque chose d'une peur. C'était plutôt une étape de la vie, comme les autres. Et je crois que ça nous a beaucoup structurés. Il y a aussi la pratique du sport, compétition ou non. Et ça nous a appris à perdre, ça nous a appris à gagner. Donc c'est un peu ces moments qui étaient... tout au long de l'enfance, et puis aussi les moments uniques, quoi. C'est passer du temps avec la nature, passer des moments simples, quoi, et pouvoir les partager. Je crois que ce sont tous ces genres de petits détails qui m'ont structuré.
Peggy, en fait, on pourrait penser qu'en tant qu'aventurière, vous nous invitez à découvrir la volonté, le dépassement de soi, ce qui est une réalité dans votre ouvrage. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que oser toujours céder parfois, renoncer jamais, ça s'adapte à la vie quotidienne. Ça, c'est véritablement aussi pour nos auditeurs que vous avez écrit cet ouvrage, puisque notre vie est jalonnée parfois de sentiments de frustration, d'échecs, de choses un petit peu négatives, où on a vraiment l'impression qu'on ne va pas sortir d'un tunnel. Or, vous nous expliquez qu'en décalant notre regard, en voyant les choses différemment, on peut y parvenir.
Bah surtout que je crois, c'est qu'on craint l'échec. Donc, je pars du principe qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Et je pense que c'est important d'avoir toujours cette vision optimiste dans la vie, d'être toujours positif, de se projeter en vainqueur, de se mentir parfois à soi-même, mais d'évacuer en tout cas cette crainte par rapport à la notion d'échouer. Donc, c'est pour moi, en tout cas, ça a été une des clés, en tout cas, de ces traversées. Et c'est aussi une sorte d'entraînement que je pratique tous les jours, à la fois pour les défis personnels que vos auditeurs, à mon avis, connaissent. Mais en tout cas, toujours muscler cette audace.
Voilà, une hygiène de vie que d'avoir de l'audace. Et c'est pas Julien qui nous dira le contraire. Julien, bonjour.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Ça va Julien?
Ça va très bien. Ça va très bien.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que nous raconte Peggy Boucher?
Ben c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est aussi quand même, quand on y pense, déjà beaucoup de courage.
Oui.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est important, face aux épreuves, difficiles, plus ou moins difficiles, qu'on peut traverser. Et tout simplement, voilà, c'est ce mot vraiment important.
Julien, vous allez nous expliquer, vous aussi, quelle est votre vie et puis quels sont les défis que vous avez relevés. Car il faut le préciser, si là vous nous écoutez, si on peut se parler, vous et moi, si vous nous écoutez, on ne peut pas se voir puisque vous n'avez pas la vue, vous êtes aveugle depuis la naissance. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'a pas été une entrave pour vous. Bien au contraire, puisque vous avez fait des choses géniales et vous vouliez faire passer un message. Il faut se bouger. Donc, dans un instant, vous allez nous faire bouger, justement, Julien, sur l'antenne RTL. Okay, on se retrouve tout de suite avec vous. Et puis avec Peggy Boucher, si vous souhaitez intervenir, 32-10 et réseaux sociaux. À tout de suite.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Peggy Boucher est en direct sur RTL avec vous jusqu'à 16h. Peggy est auteur d'un ouvrage que vous pouvez regarder d'ailleurs sur RTL.fr. On le reconnaît parce que c'est vrai que les illustrations sont hyper sympas, Peggy. Elles ont quelque chose de très amusant. Elles sont signées par quelqu'un que
Charlotte
vous connaissez.
Charlotte Dujour.
Oui, d'accord. Ben, voilà, super
illustration. En fait, je voulais un livre qui soit complètement décalé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. À la fois, je parle par rapport au livre de développement personnel de mon parcours. Et puis, je voulais quelque chose aussi qui soit sur le ton de l'humour, quelque chose d'assez espiègle. Et je trouve que Charlotte résumait très, très bien, en tout cas, le ton du livre.
Ça l'est. Osez toujours céder parfois, renoncez jamais aux éditions Chêne. D'ailleurs, c'est vous qu'on voit en, qu'on voit en couverture sur donc une barque qui n'en était pas une. Hein, parce que quand vous avez traversé l'Atlantique à la rame et sans assistance...
C'est un bateau.
C'était un bateau. C'était une grande embarcation quand même. Alors, il en est un jour qui n'est pas venu en bateau jusqu'à Paris, mais qui a quitté Marseille, alors qu'il y était plutôt bien, Julien. Et puis, il a eu envie de découvrir Paris. Il a eu envie également de faire de la radio. Donc, c'est chose faite puisque vous êtes sur RTL aujourd'hui. Et il est parti, bille en tête, les yeux fermés, puisque Julien est également aveugle depuis la naissance. Il est avec nous. Julien, vous êtes toujours là?
Exactement, oui.
Racontez-nous un petit peu, parce qu'on sent quand même que vous, rien ne vous a jamais arrêté. Est-ce que vous avez le sentiment de provoquer quand vous racontez un petit peu tout ce que vous avez fait? À 16 ans, vous quittez Marseille, vous vous installez à Paris, vous avez décidé que vous feriez de la radio. D'où ça vous vient? Est-ce que vous avez le sentiment que les gens portent une certaine admiration sur le parcours qui est le vôtre?
Alors, c'est vrai qu'il y a une admiration, ça c'est vrai, on la constate. Mais en fait, depuis le début, j'avais cette passion qui était de faire de la radio. La radio, donc l'animation, la production, le journalisme, j'ai toujours aimé apprécier le monde des médias. Et c'est vrai que bon, bah, 16 ans, adolescence, surtout que voilà, je suis déficient visuel, donc il y a un moment où l'adolescence, vous l'avez comme tout le monde, mais avec quand même ses différences.
Ouais.
Et donc je me suis dit, à Marseille, c'était bien, c'est vrai, j'avais des contacts, mais tout ce qui était au niveau des médias, on en avait quand même beaucoup moins. Et puis aussi, on s'écarte un petit peu, mais indirectement, ça joue beaucoup l'autonomie. C'est-à-dire l'autonomie, à Marseille, je l'avais, mais à Paris, c'est quand même, il y a plus de choses, il y a plus d'adaptation. Donc j'ai dû aussi aller à Paris pour rattraper un petit peu les manquements que j'avais. Et donc c'est comme ça que j'ai pu y venir, tout simplement, à Paris, terminer mes études d'abord, avoir un bac professionnel dans le commerce et la vente. Et puis après, rentrer en école de journalisme et d'animation radio, où aujourd'hui, je poursuis mes études.
En fait, rien ne vous a jamais arrêté. Vous ne considérez pas les entraves. Pour vous, il n'y a pas d'entrave.
Il y en a.
Il y a des obstacles.
Justement, ça peut être compliqué. C'est vrai que des échecs, oui, on peut en avoir, notamment au niveau des études. C'est vrai que la radio, quand on regarde aujourd'hui des déficients visuels, il y en a peu qui travaillent dans les médias. Et donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, quand j'ai cherché tout simplement pour évoluer dans ce milieu, j'ai toujours évolué en fait avec des personnes voyantes. Donc, si vous voulez, moi, j'ai toujours aimé cette ouverture en fait sur mon extérieur. Et donc, c'est réellement important. Et c'est vrai que donc voilà, j'ai tout simplement évolué avec des personnes voyantes pour en arriver là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je m'en sors plutôt bien.
Est-ce qu'on a essayé ?
C'est vrai.
Oui, pardon, Julien.
Mais on y arrive. En fait, ça dépend aussi, je dirais. Il faut aussi que vous ayez en fait l'envie, en fait. L'envie d'y arriver, tout simplement.
Est-ce qu'on a essayé de vous décourager parfois en vous disant, écoute, Julien, là, tu pars dans une aventure qui est déjà compliquée ?
Oui. Je dirais, je l'ai eu, pour tout vous dire, de rares fois, honnêtement, pour être honnête avec vous. C'était en fin de collège où on me disait, bon, la radio, tu comprends, s'il n'y en a que quelques-uns qui réussissent, et puis toi, le fait que tu sois non-voyant, c'est pas forcément adapté. Donc, vous voyez, cet argument de qui pourrait, c'est vrai, décevoir. Mais j'avais eu la chance, moi, déjà, d'avoir quelques expériences, on va dire, en fait, dans ce milieu. Et bon, j'ai écouté ces arguments et aujourd'hui, je vois que c'est quand même moi qui ai raison par rapport à eux, de ce que ces personnes me disaient avant. Aujourd'hui, je suis en école de journalisme et d'animation radio et ça se passe.
Vous insistez sur votre autonomie, vous vivez seul, vous sortez en boîte de nuit, vous vous rendez à vos rendez-vous tout seul. On a le sentiment aussi que vous êtes acteur de votre existence avec, en plus, effectivement, cette différence qui est que vous n'avez pas la vue. C'était important pour vous de rester acteur ?
Oui, je crois que c'est important aujourd'hui de rester acteur, tout simplement parce qu'il faut mener le projet, aussi parce qu'il faut être réaliste. Les gens, aujourd'hui, il y a quand même une méconnaissance, aujourd'hui, en France, de la déficience visuelle en général. Mmh. Et donc, c'est important aussi, tout en mettant votre projet en avant, il y a derrière ça toute une sensibilisation en fait, que vous faites. C'est-à-dire qu'indirectement, vous montrez aux gens que des choses sont possibles, des éléments, des métiers sont réalisables. Et c'est réellement important aujourd'hui. C'est très, très important. Je crois que c'est par la sensibilisation qu'on avancera et que ça bougera.
On vous souhaite plein de bonnes choses, Julien. En tout cas, vous avez une super voix de radio. Hein.
Voilà. Merci beaucoup.
Moi, je vous le dis, et je pense que c'est partagé par tout le monde dans ce studio. Merci pour ce message hyper positif. Évidemment, vous restez à notre écoute, Julien. Et puis avec Peggy Boucher, on va revenir sur tout ce que vous nous avez dit il y a un instant. Julien,
merci
on vous
beaucoup.
Embrasse. Et moi, je vous dis un gros merde.
Merci
pour la suite. Salut, Julien.
Au revoir.
Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre.
Peggy Boucher, vous avez écouté le témoignage de Julien il y a un instant sur RTL. Julien qui a 22 ans, qui étudie en école de radio aujourd'hui en région parisienne. Il vient de Marseille et la particularité de Julien, qu'il partage d'ailleurs avec bon nombre de nos auditeurs et on en profite pour les embrasser, c'est que Julien ne voit pas, Julien est aveugle de naissance. Et malgré tout ça, il s'accroche à son rêve. Et c'est vrai que son témoignage est super positif et vous avez trouvé une résonance avec votre ouvrage aussi dans ce qu'il nous
disait. Oui, j'ai trouvé beaucoup de points communs en fait. La première, je crois que c'était il a toujours agi comme s'il était impossible d'échouer.
Oui, absolument.
Et je trouve ça fascinant quand on a, en fait, on est une sorte d'énergie renouvelable à nous tout seuls quand on a un projet, parce qu'on a un cap, on se focalise dessus, on en oublie les écueils, on en oublie les obstacles. Et je trouve que ça nous permet d'avoir, de réunir en tout cas suffisamment d'enthousiasme, d'audace, de courage pour aller jusqu'au bout. Avec une bonne préparation, avec aussi les personnes bien entourées, enfin bien de qui on
bon
peut
entourage,
bien entourage.
Oui. Oui.
Je pense que c'est en tout cas la clé de bon nombre de projets.
Les rabat-joies, vous en avez entendu vous quand vous avez décidé de traverser l'Atlantique à la rame solitaire sans assistance.
La première, je pense pas les premiers ont été sur le fait que je sois une femme parce que tout le monde m'a dit c'est une histoire de gros bras puisqu'aucune femme l'avait effectué jusqu'alors. La seconde, ça a été le fait d'être jeune parce qu'on me dit jeune.
Vous aviez quoi, 22, 24
ans. J'avais 22 ans. Et puis ensuite, on m'a dit, mais l'Atlantique, c'est trop grand. Pourquoi tu commences pas par le lac Léman ou la mer Méditerranée ? Donc, moi, j'ai toujours,
La Seine, oui.
J'ai toujours vu quelque chose d'assez grand. Et on a été éduqués, ma sœur et moi, en tout cas dans ce même esprit. On a toujours eu une vision panoramique de la vie. Et donc c'était important d'avoir, en fait, de donner de l'ambition à ses rêves, à ses projets.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire justement à travers cette notion des gens qui nous découragent ? Comment faire face et ne pas rester sous l'influence des idées négatives des autres ? Comment s'affranchir du pessimisme des autres ?
Je pense qu'il faut sortir avec sa combinaison étanche.
Oui, c'est vrai ça.
Parce que les critiques, tant les bonnes critiques, il faut vraiment s'en servir. Parce que ça nous permet d'avoir une meilleure construction. Aussi, ça nous permet de peaufiner la préparation. Mais tout l'aspect négatif, ça nous pollue. Mmh. Donc, c'est un peu de la graisse quoi, qui est juste derrière nous. Alors que tout le côté...
Vous parlez du pessimisme comme la graisse de notre organisme,
ouais,
la mauvaise graisse.
Ça nous alourdit, ça sclérose, il faut le traîner, quoi. Donc c'est toujours quelque chose d'assez lourd. Alors que tout le côté optimiste, c'est toujours des muscles. En fait, les muscles, plus on les entraîne, en fait, plus ils nécessitent, plus ils sont demandeurs d'efforts. Et ça devient presque une gymnastique d'esprit. Donc c'est comme la pratique du sport, qu'on est habitué à en faire beaucoup, ça manque, mais ça devient exactement la même chose avec l'optimisme, avec l'enthousiasme. Moi je sais que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et puis que j'essaye de pratiquer en tout cas tous les jours et de le partager aussi avec les personnes qui m'entourent.
Il y a un instant, Julien nous expliquait que rien n'allait l'arrêter et puis surtout que lui pouvait prouver par son expérience que les choses étaient possibles. Quand on est dans quelque chose d'inédit, finalement, on peut prendre sa place en disant « bah oui, mais moi je l'ai fait ». L'exemplarité, c'est quelque chose d'important dans l'optimisme aussi.
Très important parce qu'on a des cas concrets face à nous. Et je déplore un petit peu en France, c'est que on soit trop axé sur le côté technique et pas assez sur le côté pratique. On met pas suffisamment en avant les gens qui réussissent, les gens qui ont des projets. On est plus dans des livres avec beaucoup de détails qui sont pas forcément attachés à la réalité. Donc aux États-Unis, par exemple, dans les pays anglo-saxons, les écoles portent le nom des personnes qui ont fait énormément de choses. Et puis on a envie aussi, ce sont des professionnels qui vont toujours au contact. Et il y a forcément aussi un besoin aussi et une envie d'aller sur le terrain. En France, je trouve qu'on a malheureusement un peu trop souvent peut-être axé sur le côté livre, par cœur.
Et il n'y a pas forcément de partage d'expérience.
Voilà, oui. Exactement.
Vous avez le sentiment aussi qu'en France aujourd'hui, la volonté ou le dynamisme ou l'envie d'entreprendre, c'est quelque chose de mal perçu, de mal vu ?
C'est souvent quelque chose d'assez jalousé. Parce qu'on n'aime pas toujours les gens qui réussissent, ou si on a réussi, c'est que c'est pas très normal. Mais je trouve qu'on l'encourage pas forcément. Moi, j'aime beaucoup la culture de projet. J'avais été marraine de l'école d'Émile en 2009. À la suite de l'intervention pour cette cérémonie, on m'avait dit ce qui serait bien, c'est que vous puissiez transmettre cette énergie. J'avais été chargée de cours auprès des jeunes élèves ingénieurs. Et il y avait quelque chose qui était très intéressant, qui s'appelait l'acte d'entreprendre. Et chacun avait un sujet, un projet qu'il devait mener entre l'idée à la réalisation, que ce soit aussi bien social, économique, d'aventure, sportif, humanitaire. Et le fait de pouvoir mener à bien un projet, je trouve que ça muscle en fait et ça cultive toutes ces notions et ces valeurs qui sont extrêmement fortes, quoi. Comme l'audace, comme c'est ne pas avoir peur d'échouer, comme le fait d'être très curieux, d'aller au-devant des gens, d'échanger des compétences, de partager. Donc je trouve que c'est ce mélange avec les professionnels, les étudiants.
Alors parfois quand même le monde qui nous entoure peut faire peur, peut impressionner certains d'entre nous, certains qui nous écoutent aussi et puis qui se disent bon bah c'est super mais en même temps à un moment donné on fait comment quoi concrètement puisque vous nous parlez de partage d'expérience, comment affronter la vie, il y a effectivement cette idée que l'échec n'en est pas totalement un mais qu'on peut rebondir, et bien on va le développer avec vous dans un instant sur l'antenne d'RTL. N'hésitez pas, c'est le moment de nous poser toutes vos questions, 3210, les réseaux sociaux, à tout de suite.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci Guillaume pour ce tweet qui dit belle bouffée d'optimisme dans l'émission de Flavie avec Peggy Boucher. Merci pour ce partage. Merci à vous Guillaume de nous suivre. Et puis Nadia, derrière d'éventuels échecs se cachent toujours de belles réussites. Une devise à adopter. Cette devise, c'est celle de Peggy Boucher qui est votre invitée aujourd'hui. Osez toujours, céder parfois, renoncer jamais. Non mais c'est vrai que on a fait régulièrement des émissions sur la méthode Coué et se dire ça déjà tous les matins, je pense que c'est aborder les journées d'une façon différente, Peggy.
Oui, parce qu'après, ça rentre dans l'ADN. Donc,
oui,
c'est devenu ancré en nous. Et puis, je trouve ça, c'est enthousiasme.
Il en est un qui doit se dire ça tous les matins et qui pourtant vit des moments pas forcément évidents. C'est Luc, je cherche du travail actuellement et les refus, les mauvaises expériences et autres échecs sont frustrants. Mais ce ne sont pas des échecs, ce sont des étapes vers ma réussite et une de plus. Il en est un qui est convaincu par notre discours aujourd'hui. Peggy, quand on est un petit enfant, on va dire, nous par rapport à nos enfants, par rapport à nos petits-enfants, comment leur donner cette assurance qui est nécessaire aussi pour avoir de l'audace, parce que il en est certains qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas ces ressources-là pour aborder la vie. Donc on s'adressera à eux dans un instant en expliquant comment se réconcilier avec l'optimisme. Les enfants, vous avez une éducation, vous me disiez tout à l'heure, j'ai eu des parents vermeilleux, mais qu'est-ce qu'ils ont fait vos parents? Ils vous ont expliqué que le monde était à votre portée, ils vous ont...
Bien sûr.
Ça c'est génial. Bah oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Et ça n'était pas que du rêve, puisque vous avez fait des choses incroyables.
Oui, mais je pense notamment quand ils le matin nous déposaient à l'école, ils nous disaient, ben, travaillez bien et amusez-vous bien les filles. Ouais. Et quand certains parents disaient, mais fais attention à toi, sois prudent, ne tombe pas. Donc l'enfant, à force d'entendre ces discours-là, il laisse irriguer par la peur et le doute. Et ce qui fait petit à petit, il prend l'option à la fois de l'immobilisme et à la fois d'un certain attentisme. Donc ça peut devenir quelque chose d'assez dangereux pour la suite aussi de son enfance et de son adolescence, puisqu'il a peur d'aller vers l'avant. Donc à force de rester un peu scotché, c'est un peu comme si vous étiez sur un ring, quoi. À force d'éviter les coups, vous savez plus exactement quelle est votre capacité à les encaisser, encore moins si vous allez être capable d'en donner, vous, à votre tour, quoi.
Il faut savoir, en tout cas, trouver un juste milieu entre un discours qui n'est pas un discours d'utopie, mais qui est un discours de... En fait, c'est du coaching de l'âme, avec nos enfants tout de suite. C'est en disant, mais vas-y, profite, croque, avance, dévore la vie et l'existence et tout ce qu'elle peut te proposer.
Soyez aventurier, je pense qu'on peut le dire, depuis l'âge de 3-4 ans. Donc, aventurier, c'est prendre un petit peu de risque, c'est vivre, quoi, avant tout. C'est pas exister, c'est vivre.
La prise de
risque,
elle est essentielle, selon vous, pour faire preuve d'audace dans son existence?
Ouais, moi, je pense que c'est indispensable. Mmh. Quelqu'un qui n'ose pas prendre du risque est dangereux, parce qu'il mettra toujours les autres dans une situation extrêmement... un peu ambiguë, parce qu'on va se dire, tiens, on ne sait pas si on peut vraiment compter sur lui ou pas, s'il est fiable... s'il est efficient. Donc pour moi, c'est toujours intéressant, en tout cas, de prendre des risques, évidemment, des risques calculés. Je ne parle pas de tout le monde demain, il traverse l'Atlantique à la rame, mais en tout cas, des risques mesurés par rapport aux actes que l'on fait, en tout cas, tous les jours.
Voilà, les actes quotidiens. Vous nous expliquez dans votre ouvrage que le danger n'est pas forcément là où on le pense. En fait, à rester replié sur soi, c'est là que réside finalement quelque chose de particulièrement mauvais pour nous, pour notre santé et puis pour notre relation à l'autre aussi.
Oui, parce qu'après, on se complaît dans l'image qu'on peut avoir de nous et dans l'image que les autres perçoivent de nous. Donc c'est pour ça, je pense que c'est important, c'est toujours d'aller de l'avant, de montrer une image. Il vaut mieux faire envie que pitié, comme on dit souvent. Mais je pense que c'est important déjà, ne serait-ce que par rapport à soi, de montrer vis-à-vis des autres de toute l'énergie qu'on a. Et quand on n'en a pas, ben aussi parfois, ça demande un peu d'effort et de se forcer. Donc toujours un peu dans le même système de l'entraînement et du muscle, quoi. Mais c'est toujours important d'essayer de ne pas se... transparaître comme une victime, quoi. Victime de la vie, victime des événements extérieurs, et de toujours regarder ce que la vie peut nous apprendre, ce qu'on peut aussi accomplir. Donc tout le monde dans sa vie professionnelle, personnelle, a subi des hauts, des bas. L'important, c'est que ça se nous construise, quoi.
Peggy, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est le vocabulaire. On va y revenir avec vous dans un instant, mais il y a une façon de parler qui forcément en dit long sur notre façon de voir les choses. Oui. Et on va se retrouver dans un instant pour choisir les bons mots avec vous sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Je suis persuadée que vous qui nous écoutez, qui faites partie de, alors je dis souvent la famille ou l'équipe ou la communauté, en effet, pour s'entendre, je suis persuadée que vous serez d'accord avec moi. Depuis que cette émission existe, on entretient l'optimisme. Alors il nous arrive, Peggy Boucher, d'aborder vraiment dans cette émission des sujets très lourds, parfois des sujets à polémique, parfois des sujets véritablement émouvants, prenants, profonds. Et pourtant, on ressort toujours avec des solutions ou côté un peu soleil. En tout cas, on essaye de grandir de toutes ces expériences et de tous ces échanges que l'on a. Et on se rend compte aussi à quel point on cultive, nous, dans cette communauté, une forme d'optimisme. Est-ce qu'il est une question, à un moment donné, de vocabulaire? Il est des mots dans la langue française qui vont plus nous booster et d'autres qui vont nous faire chavirer. Pour parler. Qui vont nous faire ramer.
Terme, je sais pas.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est Surtout que dans l'enfance, les référents comme les professeurs, comme les parents, les grands frères ou les copains, le poids des mots peut être extrêmement lourd, quoi. Mmh. Tout dépend du regard d'un professeur qui peut vous voir comme un perdant ou alors il va vous voir comme un gagnant. Son attitude va être totalement différente. Donc son regard qu'il va porter sur l'élève va totalement conditionner l'enfant. Et c'est vrai que ça, ce sont des choses, en tout cas, qui sont extrêmement rudimentaires et très formatrices. Donc je pense qu'il faut qu'ils en soient très conscients, à la fois les parents, l'entourage, les professeurs. Parce que moi, j'ai eu des soucis. Moi, j'étais en première et en seconde. J'ai eu une prof de français qui n'arrêtait pas de mettre des cartons, des mauvaises notes en français. Et je n'arrivais pas à reprendre le dessus. Donc, à un moment donné, je me suis mis en cause sur mes capacités véritables à aller de l'avant. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis, il a fallu que je rebondisse, que je me remette en question, que je me pose beaucoup de... Le problème en fait à l'envers, est-ce que ça venait de moi, est-ce que ça venait de la prof, est-ce que c'est de l'attitude en tout cas que j'avais, donc tout ça, ça a été en tout cas assez difficile, quoi. Et le regard de l'autre en fait me donnait de moi une idée plutôt négative, quoi.
Donc il faut s'affranchir de ça aussi. Il faut s'affranchir du regard de l'autre, donc ça veut dire aussi qu'il faut se faire confiance, et pour se faire confiance il faut se connaître soi-même. Vous insistez sur la curiosité. Alors, on le vit aussi nous dans cette émission, on est curieux systématiquement de l'autre, de tout ce qui est bon à prendre, mais du coup ça nous invite à être curieux sur nous-mêmes aussi, c'est-à-dire que la curiosité, cette ouverture d'esprit peut s'appliquer à notre intérieur.
Exactement, mais moi je me suis rendu compte, enfin je me suis toujours posé beaucoup de questions. Peut-être un peu trop.
Ça nous fait
des
points communs.
À la fois sur les autres, à la fois sur moi, en me demandant comment tout ça fonctionnait. Et c'est vrai que j'ai vraiment réalisé que le fait de bien se connaître, on gagne énormément de temps. Parce qu'on connaît vraiment, véritablement, ses freins, ses motivations, ses objectifs, quelle attitude on va adopter à certains moments. Et je trouve que c'est pratique, quoi. Et comme je suis pas très patiente de nature, en fait, ça m'a fait gagner beaucoup de temps de bien me connaître. Et c'est vrai que quand j'ai fait la traversée à la rame, quand on se retrouve l'Atlantique à la rame, quand on se retrouve toute seule sur un bateau, on ne peut compter que sur soi. On tout se fait en accéléré, quoi. Donc c'est quelque chose de formidable. On intellectualise le voyage et puis on voit vraiment tout ce qui est. Tous les efforts qu'il faut faire, parce que je suis plutôt perfectionniste et assez exigeante envers les autres et envers moi, et j'aime progresser. Et c'est vrai que la curiosité, comme vous en parliez là à l'instant, c'est quelque chose de très important, parce qu'il faut pas avoir peur, je pense, d'aller chercher les conseils, toujours avec beaucoup d'humilité, mais les conseils auprès des gens qui ont réussi, voir ce qui les a freinés, voir ce qui les a motivés, et toujours aller au-devant des autres. Pas se contenter un peu de son petit univers, de sa propre expérience.
La solitude, elle est formatrice aussi. Quand on est bien avec soi-même.
Elle est formatrice et elle est. C'est important de pouvoir cohabiter avec soi-même. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est que la solitude, souvent, on la subit et qu'on le voit comme quelque chose de relativement négatif. Alors que ça permet de mieux se recentrer, ça nous permet aussi de mieux se connaître, de pouvoir aussi de faire une sorte de voyage, en tout cas, à travers ces modes de fonctionnement. Et puis aussi, c'est de mieux se tolérer, c'est d'apprendre à mieux s'aimer, et puis aussi apprendre à décider seul, à apprendre à savoir dire non aux autres. Donc tout ça, c'est un peu des préceptes que j'essaie en tout cas de communiquer, de partager.
Voilà, et que vous communiquez très bien dans votre ouvrage « Osez toujours, cédez parfois, renoncez
jamais »
aux éditions Chêne. Et on se retrouve, comme toujours, dans un instant sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Alors Guillaume, si vous nous écoutez toujours, nous tweetons avec vous depuis le début de l'émission et on adorerait que vous nous expliquiez quel est justement ce projet qui est le vôtre et qui vous tient tant à cœur, puisque Peggy Boucher, on parle aujourd'hui de ceux qui osent, qui parviennent à rebondir, qui ne considèrent pas les échecs comme définitifs, mais plutôt comme des passages obligés de leur existence. Et Guillaume a véritablement beaucoup de choses à nous raconter sur le sujet, donc appelez le 3210 Guillaume, qu'on puisse parler avec vous sur l'antenne d'RTL. Rebondir, c'est un mot qu'on retrouve dans votre ouvrage Peggy Boucher. Rebondir, c'est cette idée que là, finalement, rien n'est définitif, il y a une sorte d'impermanence, et qu'après un échec ou après avoir chuté, on peut repartir et ça peut fonctionner.
Oui, parce que l'important, c'est pas l'échec, c'est ce que l'on en fait. Donc, c'est toujours, je pense, ce besoin de passer à autre chose, quoi, de surpasser et de le laisser derrière.
Tout en retenant beaucoup de choses de ça.
Faut toujours. Mais y a pas. Moi, je pars du principe qu'il y a pas de bonne ou mauvaise expérience, quelle qu'elle soit. Il faut être capable d'en tirer une leçon. Donc, il y a pas d'adjectif à l'expérience. Donc, il faut tirer le maximum profit, bénéfice, de façon à pouvoir se structurer, de façon à pouvoir rebondir, de pouvoir attirer parti aussi des soucis qu'on a pu connaître, des mauvaises préparations. Des bonnes choses. Et puis, moi, je sais que dans la deuxième équipe, au niveau du management, j'ai appris à dire merci. Et c'est vrai que quand on est passionné par un projet, on a tendance à avancer un peu trop vite. Pour les autres, on oublie que derrière, il faut aussi motiver les troupes. Et dire merci, c'est un petit mot, mais ça vous permet aussi d'encourager les autres. Et ça aussi permet de reconnaître le travail des autres.
Voilà, et d'être boosté aussi. Oui. Et de faire, en fait, d'une aventure personnelle, en faire quelque chose de positif. Alors, pour ceux qui nous écoutent aussi, comment, à un moment donné, rebooster notre audace? On va en parler avec Guillaume, qui, je crois, est en ligne avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Ah, c'est bien vous alors.
Oui, c'est bien moi qui tweet là depuis le début de l'émission.
C'est bien moi qui suis de l'autre côté du tweet, figurez-vous. C'est un plaisir de pouvoir parler avec vous. En fait, votre prénom c'est Florent.
C'est ça, oui.
Et je vous remercie d'avoir composé le 3210 parce qu'on avait très envie de parler avec vous. Il nous reste quelques minutes seulement. Expliquez-nous un petit peu en quoi cette émission vous touche particulièrement et puis quel est votre projet, parce que vous parlez des 7 sommets, c'est le tour du monde des 7 sommets. Donc pour ça, il faut oser toujours, céder parfois et ne jamais renoncer.
Faut jamais renoncer, voilà. Et puis moi, voilà, bah, c'était l'occasion de témoigner dans votre émission brièvement avec votre invité Peggy, puisque moi j'ai reçu il y a pas longtemps son dernier ouvrage justement.
Ça booste, hein, ça fait du bien.
Hein. Pardon.
Ça fait du bien cet ouvrage, hein.
Ça fait du bien, ouais, c'est toujours, voilà, ça motive un petit peu par rapport à la vie qu'on mène tous les jours. Et puis voilà, c'est une grande bouffée d'optimisme. Et puis bah, pour en parler de mon projet, voilà, que vous avez peut-être pu visiter sur le site dédié, bah, c'est tout simplement l'ascension du plus haut sommet de chaque continent.
Oui.
Donc un vaste projet qui date, qui a démarré il y a plus de 20 ans, qui est toujours en cours.
Oui. Vous en avez déjà fait 5?
Alors voilà, j'ai fait 5 sommets assez rapidement. Bon, il en reste 2 qui sont les plus compliqués, puisqu'il y aura une expédition en Antarctique, et puis après il y aura le défi de toute une vie d'alpiniste, à savoir gravir le toit du monde.
Everest. Génial, l'Everest, exactement. Alors, vous faites quoi dans la vie en fait, Florent?
Alors moi je suis cuisinier de profession. Donc c'est voilà, super. La montagne c'est simplement une passion, une grande passion.
Et vous avez toujours voulu gravir les sommets, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'enfance avec Peggy en disant que c'est important aussi d'expliquer à nos enfants qu'on peut tomber, mais qu'il faut faire attention, mais qu'en même temps, le monde est petit et qu'on peut en profiter. Est-ce que vous avez été élevé comme ça, vous, Florent?
Oui, bah moi j'ai toujours eu comme, étant enfant, j'aimais bien relever toutes sortes de défis, parce que voilà, moi je suis pas natif du milieu de la montagne, hein, j'ai découvert ça justement par mon métier.
Oui.
Et donc, c'est l'occasion, de se prouver à soi-même qu'on peut réaliser des choses qu'on ne sommes pas au départ, quoi.
Est-ce qu'on a essayé de vous décourager en vous disant, mais t'es complètement fou, Florent, tu veux monter les 7 plus hauts sommets du monde?
Oui, c'est vrai que le début du projet n'a pas été toujours facilité.
Ouais.
Moi, je suis natif de la plaine, de la région angevine. Donc, il y a très peu de relief. Donc, quand je me suis engagé dans ce projet, les gens m'ont pris un petit peu pour un fou, pour quelqu'un qui se lançait des choses inaccessibles. Et puis, avec le temps, on s'aperçoit qu'on peut, réaliser de grands projets.
Florent, est-ce que vous avez le sentiment aussi, à chaque fois que vous parvenez à arriver en haut de la montagne, à planter votre drapeau à vous en vous disant « je l'ai fait », est-ce que vous avez le sentiment que ça a un impact sur tous les autres domaines de votre existence?
Ah oui, complètement, oui. Parce que moi, quand je pars en expédition, c'est l'occasion aussi, non seulement de gravir la montagne, mais de faire de très belles rencontres. J'ai rencontré les Maasai, j'ai rencontré les Papous. Ouais. Et après, quand on revient en Europe, qu'on reprend son rythme au quotidien, on relativise beaucoup sur tout un tas de choses.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs qui ont des rêves comme ça et qui ont du mal à sauter le pas et qui parfois ont besoin de trouver une énergie qu'ils ne soupçonnent même pas?
Les rêves, c'est bien d'en avoir, mais c'est encore mieux de pouvoir les réaliser. Donc, faut se faire confiance à soi-même, prouver à son entourage qu'on est capable de réaliser de grandes choses, comme l'a fait Peggy dans sa traversée de l'Atlantique à la rame. Donc, faut toujours croire en ses possibilités.
Peggy, qu'est-ce que ça vous inspire, le discours de Florent ? C'est tout à fait ça. Hein.
C'est tout à fait ça. Et puis moi, j'ai beaucoup de respect aussi pour les gens qui font en montagne. Parce que moi, c'est l'inverse. Je suis née en montagne, en Haute-Savoie, à Évian. Je me suis retrouvée sur l'Atlantique. Et c'est vrai qu'on se retrouve sur les éléments qui sont aussi hostiles et exigeants. Il faut toujours faire preuve à la fois de beaucoup d'humilité, parce que c'est des milieux qui sont assez rugueux. Et c'est en tout cas ces genres d'expéditions qui m'ont donné envie, quand j'étais enfant, de me lancer dans des aventures comme celle-ci.
En tout cas, c'était un plaisir vraiment de pouvoir échanger avec vous, Florent. Et puis, on vous souhaite de parvenir à gravir ces sommets. Vous nous tenez au courant, puisque maintenant, vous nous suivez et que vous aimez bien cette émission.
Donc,
tenez-nous au courant. On a une page Facebook. Et ça nous ferait vraiment plaisir de savoir où vous en êtes dans tous vos projets.
Ouais, c'est très gentil à vous.
Bah, on vous embrasse.
Merci.
On vous souhaite plein de bonnes choses. Hein. Salut, Florent.
Merci, au revoir. Bonne journée.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, Roxane qui tweet alors que nous arrivons à la fin de cette émission. C'est tellement beau. On est fait pour s'entendre sur RTL. C'est hyper inspirant. C'est vrai que c'est contagieux. C'est bien ce mot aussi, inspirant. Voilà du vocabulaire positif, Peggy.
Bah, c'est comme l'exemplarité, quoi. C'est un souffle. Et ouais. Aujourd'hui, il souffle dans le studio. Donc c'est bien.
Voilà, et il souffle aussi auprès de tous nos auditeurs, où que vous soyez, quelle que soit votre activité, quand vous nous écoutez, sachez que ça nous fait toujours plaisir de vous savoir près de nous, comme chaque jour. Peggy, je vous remercie d'avoir été notre invitée.
Merci, Flavie.
On est tous reboostés, mais on va tous faire des trucs incroyables de notre existence.
À chacun son Atlantique.
Exactement. Ou son Everest. Osez toujours céder parfois, renoncez jamais, c'est votre ouvrage aux éditions Chêne. À très bientôt, Peggy.
Merci, à bientôt, à vous. Au revoir.
Et puis nous, demain, on se retrouve pour parler de l'art-thérapie. Alors, jouer de la musique, faire de la photo, de la peinture, de la sculpture, du théâtre, dessiner, écrire, la pratique de l'art aurait la grande vertu de nous aider à aller mieux. Le pouvoir de l'art sur l'âme et le corps, ce sera demain dès 15h avec vous, bien sûr, sur RTL. Si vous voulez tout savoir sur Shakespeare, eh bien, écoutez, La curiosité est un vilain défaut. Ce sera à 20h ce soir, en direct sur RTL. Tout de suite, je parlais de l'art. Eh bien, place aux artistes. Voici Laurent Ruquier, Les Grosses Têtes. Je vous embrasse, heureuse de vous retrouver en ce lundi. Et je vous dis à demain.